Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a mis les épaules sur la tête.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième.
Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, les malheurs des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Eric Dimeco, Willy Sagnol, Jérôme Rotten et Daniel Riolo ce soir. Casting de rêve dans l'after, les gars. Complété par Julien Laurence qui nous rejoint depuis Londres. Salut Julien.
Salut Gilbert, salut à tous.
Jérôme, tu voulais rajouter un truc sur les jeunes qu'on enflamme trop tôt là, ou on clôture
le
débat?
Je comprends la position d'Eric. Il y en a beaucoup comme Liadji, mais moi, nous, on parlait plus des joueurs, des jeunes joueurs qui débutent en pro, qui ont déjà, qui prennent leur marque en pro, qui jouent régulièrement. Il y a les clubs qui n'hésitent pas, par rapport à il y a quelques années, à lancer un jeune de 16 ans, 17 ans, 18 ans quand il a le niveau et il peut s'imposer. Après, il y a
Camavinga, par exemple.
Il y a l'entourage, en effet.
Il est encore jeune, Camavinga, et il sait déjà.
Oui,
il sait déjà qu'il compte comme une énorme valeur pour Rennes. Donc,
on a deux exemples cette année. On a Cherki et Camavinga.
Non, mais on est d'accord. Mais après, il faut différencier tous les cas. Et moi, là, on parlait plus des jeunes joueurs qui débutent en professionnel. En effet, ça monte vite, mais ça monte vite parce que les clubs sont obligés financièrement de s'aligner, sinon ils le perdent. Ou il y a une grosse valeur marchande qui se met en place. Et c'est la stratégie d'ensemble des clubs français aujourd'hui, donc d'une éventuelle revente, même au bout d'un an. Et puis après, il y a le côté médiatique, bien sûr, qu'on peut pas nier.
Ça,
c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, un jeune qui réussit à jouer et qui est bon, au bout de trois matchs, c'est déjà un génie. Et ça, c'est problématique.
Ouais, mais ça fait partie d'un problème plus vaste. D'enflammer les jeunes, c'est simplement un élément parmi tant d'autres. Donc moi je pense que c'est surtout les médias qui sont responsables dans un premier temps.
Ah non, alors oui, les clubs, mais vous n'avez pas écouté ce qu'il a dit.
Mais tu peux pas me laisser finir, Daniel.
Si,
voilà, oui, c'est gentil, merci. Tu me dis, non, mais tu me diras à la fin. Je suis sûr qu'Eric est là. Mais c'est juste que regarde, quand tu as aujourd'hui, on vit dans une société où il faut toujours trouver des superlatifs. C'est comme ça. Regarde aujourd'hui, dès que tu as, ça a commencé avec les Galactiques au Real. Après, il y avait les interstellaires, il y avait les supraterriens, il faut toujours trouver des superlatifs parce que on vit dans un monde où pour essayer de ressortir entre 360 chaînes de télé, 50 chaînes de radio, 12 000 journaux, il faut trouver tout le temps des superlatifs. Et les jeunes, en fait, ça a suivi le mouvement avec les jeunes, c'est pareil maintenant, c'est nouvelle.
Ce qu'expliquait Flo Balmont, puisque on lui demandait, il disait la mentalité des joueurs a changé parce que nous, il fallait 2, 3, 4 saisons faisant des matchs tout le temps pour être reconnu et tout. Ok, donc moi j'essaie d'expliquer ça. Moi, ce que tu nous racontes, Willy, c'est la réalité, mais c'est le mal a été déjà fait avant.
C'est
surtout que le mal a été fait avant, c'est-à-dire
bien
que
sûr.
Et je vais te dire la vérité, Willy, on jouerait tous les trois encore aujourd'hui, on aurait la même mentalité que les joueurs d'aujourd'hui. Remets-toi nous quand on est rentré, parce que bon, je sais pas à quel âge vous êtes rentré dans un centre de formation. Moi c'était à 16 ans, c'est-à-dire j'ai passé mon bac avant de rentrer dans un centre de formation. On rentrerait à 13 ans comme aujourd'hui et à 14 ans puisqu'on a joué tous un peu tôt en pro. À 14 ans, on commencerait déjà à être un joueur sur qui ? Mais le club aurait déjà donné du boulot à tes parents, t'aurais déjà donné un contrat avec plusieurs zéros, alors que nous, on gagnait 700 francs, ou je sais pas, moi, mon premier salaire, c'était 625 francs. Je m'en souviendrai toute ma vie. Là, aujourd'hui, les mecs, déjà, au bout de 6 mois, où on sent qu'il y a un potentiel pour pas se le faire piquer, tu es obligé de lui donner un contrat déjà indécent.
Oui,
déjà... Et donc, le mal est fait dans la tête du petit. C'est pas quand il arrive à 18 ans en pro qu'on dit que c'est une pépite, qu'on lui fait du mal. Il est déjà au-dessus de tout le monde.
Pourquoi,
déjà.
Mais pourquoi ton époque? Non, mais pourquoi toi, ton époque?
Et c'est pas de
jeunes...
leur faute. C'est pas
non,
de leur faute.
J'ai pas dit que c'était. J'ai pas dit.
C'est le système aujourd'hui qui est comme ça.
J'ai pas dit que c'était la faute des jeunes, mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi toi, par exemple, et moi à mon époque, toi c'était 600 et quelques francs, moi c'était 1100 francs mon premier contrat. Mais pourquoi
ça
à cette époque-là?
Ça payait bien,
Saint-Étienne. rester des bourgeois.
Non, non, mais si tu veux, il y avait une chose, c'est que c'était avant l'arrêt Bosman.
Oui.
Donc les clubs avaient la main mise sur les joueurs et les joueurs devaient signer les premiers contrats pro dans leur club. Aujourd'hui, avec l'arrêt Bosman, tu peux refuser ton contrat pro dans ton club et partir à l'étranger.
Ok. Voilà. Oui, ça a fait du mal. Mais regarde après l'arrêt Bosman. Il n'y a pas eu tant de changements que ça dans la mentalité, notamment des jeunes qui sortaient. C'est quand l'économie du football est devenue ce qu'elle est devenue récemment, et notamment en France. Parce qu'à l'étranger, ça n'existe pas, ça. Pourquoi ça existe en France? Parce que le fonds de commerce d'un club, c'est le joueur. Ok? C'est-à-dire un petit. Là, à Marseille, par exemple. Là, ils étaient prêts à faire des folies pour le garder parce que c'était peut-être une revente de 20, 30, 40 dans quelques temps, ce qui permet de vivre.
Parce que le club ne vit ça, les mecs. Vous pouvez pas ignorer l'économie de notre football.
Voilà, en Angleterre, un petit de 15 ans, il y en a déjà, il y en a 20 dans un centre de formation parce qu'ils ont les moyens de les faire venir et de les payer déjà très cher au truc. Il y en a 20. Et un petit qui est pas sérieux que tu dégages, tu as perdu peut-être 20 millions, 30 millions sur une éventuelle revente, mais c'est quoi dans le budget d'un club anglais? C'est rien du tout. Mais nous, 20, 30 millions, tu as vu ce que c'est l'OM, là, à cette fin de saison, là, s'ils doivent vendre. Ils sont prêts à vendre le petit camarade qui a fait une saison. Donc tu t'imagines ce que ça représente dans l'économie du club d'un petit de 20 ans.
Oui, le mot de la fin pour toi.
Il n'y a pas de mot de fin. Eric a raison aussi sur l'évolution, les droits télé qui ont créé une vraie dépendance des clubs et que maintenant, les clubs, dans l'économie mondiale, sont obligés de vendre en France. Ça, je suis d'accord. Voilà, mais ça, c'est pas que juste sur les jeunes. C'est le monde du foot qui a.
Dévissé
un peu.
On change de sujet. Julien Laurence est avec nous. Julien, c'est une proposition qu'on a reçue sur l'hashtag #MonAfter. Je rappelle qu'il est toujours dispo hein, si vous voulez nous proposer des sujets dans cette période sans match. Là, on est encore parti pour a priori un bon mois minimum. Et donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos propositions. C'est évidemment de revivre quelques grands moments de vos championnats respectifs, vous les drôles de l'âme. Et ce soir, on va parler du fameux Kung Fu d'Eric Cantona. Et oui, c'était le 25 janvier 95.
25.
Julien, donc ça commence à dater.
C'est ça.
Cette histoire, le temps passe. Et pour les plus jeunes, il faut leur rappeler ce qui s'est passé ce jour-là.
Bien sûr, alors on va replacer un petit peu le contexte. Comme tu l'as dit, le 25 janvier 1995, un soir en semaine, ce qui est très rare finalement en Angleterre de jouer le soir déjà, et puis encore plus en semaine. Mais ce match-là était en semaine à cette époque-là. Manchester United d'Eric Cantona donc se déplaçait à Crystal Palace dans le sud de Londres, à Selhurst Park, leur stade. À cette époque-là, United est deuxième derrière Blackburn dans une course au titre qui est finalement plus serrée que ce qu'on pouvait penser en début de saison, tant United avec...
Tu parles des fameux
Blackburn
Rovers de Jérôme Roten.
Exactement, les Blackburn Rovers de Jérôme Roten.
Et qu'il a visité les installations.
N'oublions pas.
Ah oui. Exactement. Attends, petite parenthèse.
S'il avait signé là-bas, il est en Ligue des Champions cette année.
Petite parenthèse, dans English Game, la série dont je vous ai beaucoup parlé et que je vous conseille tous, le premier club à gagner la FA Cup professionnelle,
c'est Blackburn.
C'est Blackburn et on voit les installations de l'époque. Les installations.
Il faut que je le regarde.
Là où Jérôme est allé.
C'est pour ça que Jérôme est pas resté. C'était les installations d'époque.
Oh non, les installations étaient top.
Tu l'as pas vu encore, Eric?
Non, je dois le voir là. J'ai fini la mienne là et je continue après derrière.
C'est quoi la tienne du moment là?
Là, je suis en train de finir Westworld. Là.
Ouais. Ah, ça me dit rien ça.
Comment, vous connaissez pas Westworld?
West Wing?
West World sur OCS.
Non. Oh là là. OCS, je l'ai pas, OCS, pardon.
Ah ouais, c'est un peu futuriste pour eux, Eric.
C'est trop compliqué, il faut réfléchir, c'est pas possible.
Écoute. À tous les jours, t'as un mec qui dit qu'il faut avoir une nouvelle série, moi je suis perdu aussi.
Mais oui, mais il y en a des millions.
Vous savez que ça, c'est un vrai problème du confinement? C'est que les gens, ils te retournent la tête avec leur série. Non, il faut que tu regardes ça, celle-là, c'est la meilleure et tout. Au bout du dixième, tu dis,
j'arrive même plus à me finir une. Voilà. C'est ça qui est terrible.
Attends, mais à tel point qu'aujourd'hui, limite, c'est heureusement qu'on était à distance, mais limite, j'ai failli me faire agresser pour commencer une série. C'est le directeur sportif de Bordeaux. Il m'a obligé à regarder la série qu'il était en train de regarder. Immédiatement, je suis allé me faire le premier épisode.
Ah, c'est insupportable, cette pression.
Ah, il est violent, le directeur sportif de Bordeaux.
Mais c'est quoi la série en l'occurrence?
Il devrait être violent avec ses joueurs. Qui? C'est Baptiste. Ah, mon Dieu.
Orzac.
Ah, Ozark, c'est très beau, ça. Non, c'est génial, ça.
Mais c'est une Ozark. Série plus autour du trafic, avec des Chicanos sans pitié qui sont prêts à te buter pour rien. C'est, on a un peu vu ça beaucoup de fois, quand même.
Ouais, mais la série sur les Chicanos, c'est le trafic de drogue. Au bout d'un moment, il y en a 50 en même temps.
Il y en a 50 sur les trafiquants. Je te tue sans pitié, même devant tes mots, même devant ta femme. Hein, non?
Ah bah c'est le monde de demain, hein, tu sais. Le déconfinement, ça va finir comme ça.
Bon, moi, je vous conseillerais rien. Voilà.
Moi, je vous conseille quand même la deuxième saison de Sunderland Till I Die, parce que la première était déjà très bonne. La deuxième, croyez-moi, elle est encore.
Après,
mieux
ça, c'est pour le travail qu'on regarde ça, Julien. Donc, Sunderland, English Gate.
Non, pour le plaisir aussi, crois-moi.
C'est des séries pour le travail. Non, mais je sais que c'est le plaisir. Mais comme notre travail est un plaisir, c'est voilà. C'est pour ça que je disais ça. C'est le boulot, quoi, de regarder ça.
Bon, revenons à Cantona. Donc, on en était à Blackburn.
Exactement. Donc Blackburn est leader de la première ligue à ce moment-là, mais en cas de victoire à Crystal Palace, United et Cantona repasseraient en tête. Donc dans cette course au titre, comme je vous le disais, finalement très plus serré que ce qu'on pensait. Il faut savoir aussi, pour replacer le contexte d'Eric Cantona à ce moment-là, c'est le meilleur joueur de la première ligue sans aucun doute. Il est vraiment à son sommet, je pense individuellement et dans une équipe. Dans son équipe collectivement aussi, sa relation avec Sir Alex Ferguson, et vous le verrez avec l'anecdote que je raconterai à la fin de l'histoire, assez incroyable d'ailleurs. Voilà, il est vraiment à son sommet. Le problème, c'est aussi qu'il est tellement fort qu'à chaque match, que ce soit à domicile et encore plus à l'extérieur, il est la cible des défenseurs adverses forcément, mais aussi des supporters adverses, des entraîneurs adverses sur le banc. Voilà, tout le monde essaie soit de le faire disjoncter dans d'une façon ou d'une autre, soit en tout cas de lui mettre assez de coups pour qu'il ait le moins d'influence possible sur les rencontres. Et ce soir-là, c'est un défenseur central anglais qui s'appelle Richard Shaw, qui a deux pieds gauche, qui est grand, qui est même pas rapide, mais qui met beaucoup de coups, et qui pendant toute la première période va mettre des coups à Cantona sans arrêt. Dès que le ballon est en l'air, il lui met des coups. Dès que Cantona veut contrôler le ballon et qu'il est dos au but, il prend des coups. Voilà, Shaw lui met coup après coup après coup, jusqu'à un moment en début de seconde période où Shaw lui met un coup, et là Canto se retourne explose, mais je l'ai dit déjà, voilà, et l'emplâtre. Exactement, il perd son sang-froid, il l'emplâtre, il prend carton rouge en début de seconde période, alors que le match est à 0-0. Et quand on apprend le carton rouge, il sort, et donc il va sur le côté du terrain, et il marche avec l'un des membres du staff de Ferguson pour retourner vers le tunnel et en rentrer au vestiaire. Et là, donc, il se retrouve assez proche, finalement, des supporters de Crystal Palace qui sont là. On voit bien certains qui l'insultent un petit peu. On voit quelques gestes avec les doigts, etc. Et puis là, il y a un mec avec un manteau noir en cuir qui va descendre d'assez haut finalement dans les tribunes et qui va insulter Cantona un peu plus que les autres. Alors au début, c'est que des fucking this, fucking that, espèce d'enculé de français, des choses comme ça. Il est assez tard, Gilbert, je peux me permettre les gros mots.
Ah ouais, c'est surtout qu'il faut que tu dises exactement ce qui s'est passé.
Il le faut pour l'histoire.
Donc la véracité de l'histoire, elle passe par là.
Donc vas-y.
Exactement. Donc ça commence. Voilà, ça commence. Merci Daniel. Ça commence avec des putains de français, espèce d'enculé de français. Mais ça suffit. Cantona, ça le dérange pas trop. Il les regarde, il les toise un petit peu du regard. Il continue sa route.
Il a jamais dit que ça l'importait d'être français. Ça pouvait pas le toucher.
Ouais, de toute façon, il était anglais lui.
Il était anglais. Exactement. Il le disait tout le temps.
Et à un moment, tout à fait. Non, mais c'est vrai. Et ce Matthew Simons, à un moment, en revanche, va s'attaquer à la mère de Cantona. Et là, quand il lui dit, ta mère est une pute de française, là le mot pute fait exploser Cantona complètement, et il se retourne, et ça on touche pas aux mamans, et il se retourne et là se jette dans la tribune de Selhurst Park en faisant un coup de pied, donc avec son coup de pied droit kung-fu vers le supporter de Crystal Palace, donc Matthew Simons, qui on le saura plus tard était quand même quelqu'un d'extrême droite, qui était raciste et pas simplement contre les blancs ou contre les français, mais contre un peu tout le monde. Et après le coup de pied, il y a aussi des coups de poing, et ça part dans tous les sens, ça pleut dans tous les sens, gros attroupement, forcément tout le monde sépare Cantona, qui a les yeux mais vraiment exorbités. C'est-à-dire que c'est même plus le Cantona qu'on connaissait nous en France, qui était capable de faire des coups de folie. Mais là, c'est même plus un coup de folie. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu faire avant. Malgré tout, il arrive à retourner jusqu'au vestiaire avec l'un des membres du staff de Ferguson et de Manchester United. Il s'assoit dans le vestiaire et là, il ne dira plus un mot jusqu'à ce qu'il rentre à Manchester vers 4h du matin. Le match se poursuit donc à 10 joueurs contre 11 pour United. United ouvre le score. Brian May qui marque le premier but et qui se fait égaliser dans les dernières secondes du match pour finir un partout. Et à ce moment-là, tout le monde rentre au vestiaire et Cantona est là, toujours assis au même endroit sur son banc dans le vestiaire des visiteurs de Selhurst Park. C'est un petit vestiaire tout pourri à l'époque en 95. Il a enlevé son maillot et là, il est complètement silencieux. Personne ne ose lui adresser la parole, personne ne lui donne une petite tape, tout le monde le laisse tranquille, il est tout seul dans son coin. Sir Alex Ferguson arrive, et là, qu'est-ce que fait Sir Alex Ferguson ? Son meilleur joueur vient d'être expulsé pour un coup de folie incroyable, un coup de kung-fu, un coup de pied, des coups de poing. Il sait très bien qu'il va prendre très cher. Et là, qu'est-ce qu'il se met ? Il dit à Peter Schmeichel, mais Peter Schmeichel, mais t'es qu'un gitan, tu fais n'importe quoi, t'as déconné, comment on fait match nul aujourd'hui ? Et chaque joueur, un par un, assis dans le vestiaire, qui ont pris parti à cette rencontre, il va les défoncer. Il va les tuer un par un. Tout le monde, peu importe le statut, peu importe quel joueur c'est, un par un. Un par un. Et il arrive à Brian May. Et Brian May, il lui dit, t'as marqué, mais regarde sur le but qu'on encaisse, c'est toi qui est au marquage ? C'est toi qui est au marquage. Et Brian May dit, non, c'est pas moi, c'était Eric qui était censé prendre le joueur au marquage. Et là, Ferguson se retourne vers Cantona et lui dit, Eric, je suis quand même un peu déçu. Donc, il venait d'insulter tout le vestiaire. Hein. Il avait insulté tous les joueurs un par un. Et il se retourne vers Cantona et lui dit, Eric, je suis quand même un peu déçu de ton comportement ce soir. Et c'est tout. C'est tout ce que Ferguson, Sir Alex Ferguson, le grand Sir Alex, va dire à Cantona. Parce qu'il savait très bien que finalement, fallait pas l'accabler plus qu'il n'était. Tout le monde voyait bien sur son visage qu'il était déjà assez accablé comme ça. Mais après avoir insulté chaque joueur du vestiaire, il se retourne vers Cantona pour simplement lui dire, ce soir, tu m'as déçu quand même.
On a retrouvé l'archive en Angleterre, évidemment, de ce qui s'est passé. Évidemment, ça, c'est pour les gens totalement bilingues.
On n'entend pas là. Oui.
Voilà, donc il explique l'expulsion et puis après il est impliqué dans quelque chose avec les supporters.
On l'a pas entendu, Gilbert. J'espère que les auditeurs l'ont entendu.
Non, on l'a entendu. On l'a pas entendu.
Bon, on l'a mal entendu.
Non, on l'a bien entendu. Alors, moi, quand même, un mot sur ce kung-fu. Je pose la question d'abord à un spécialiste, Eric Dimeco.
Sur la qualité du kung-fu.
C'est quand même un geste qu'il a un peu raté, non ? Toi qui étais un spécialiste.
Non, mais on va pas faire la connerie. Tu te rappelles quand même que quand Patrice Evra fait son kung-fu aussi à l'échauffement, on est allé interviewer un prof de karaté ou un international de karaté quand même.
Pascal Gentil.
Pour savoir la qualité du geste.
T'as rappelé, mais Jérôme, on était ensemble dans le vestiaire.
Oui, c'est vrai.
Les bras me sont tombés. J'ai dit, mais vous décollez pas. Vous décollez pas. Non, mais heureusement, les gars.
Daniel, on s'en lave les mains, nous.
Voilà. Non, mais vous êtes beaucoup plus intelligents que ça. Nous, on avait fait quand même, on avait interviewé.
Moi, j'ai attendu que t'arrives pour te poser la question à toi.
Non, mais qu'est-ce que je raconte à ça ? Il a pété un câble. Il a été lourdement puni derrière, si je me souviens bien. Je crois qu'il reporte plus le maillot d'équipe de France derrière, c'est ça ? C'est son dernier match d'équipe de France, c'était juste avant. Derrière, je crois, quand il finit sa suspension, Aimé va le voir pour l'Euro 96 et pour le faire revenir. Lui demande qu'il le fait revenir que s'il joue avant ça. Eric,
non, mais blague à part, ça marque la fin pour lui.
Fait pas la fin, puisqu'il revient quand même, il est encore bon quand il revient, Julien. En club.
Quand il revient en septembre 95.
Il y a plusieurs faits dans la carrière de Cantona de dinguerie. Il y a quand il jette le maillot, t'étais là toi, Eric?
Oui, bien sûr, j'étais là, je jouais ce match amical.
Un match amical avec l'OM où il jette le maillot, puis il se casse la torse en avant, allez tous vous faire foutre.
Et j'étais même, tu sais quoi, j'étais même. Quand il joue à Nîmes et quand il lui arrive son histoire avec l'arbitre, j'allais le voir jouer à Nîmes de temps en temps. Et quand il fait ça, je suis au match.
Ah voilà. Bon. La carrière de Canto, outre ses qualités de footballeur, c'est aussi ça, c'est les pétages de plomb.
À OCR, puisqu'il avait aplâtré, c'est qui avait aplâtré, Bruno Martini?
C'était entre coéquipiers.
Voilà,
là,
ouais.
Il y a une histoire avec Jean-Claude Lemoux.
Ça c'est arrivé aussi quand il était à Montpellier, en effet.
À Montpellier.
Donc en fait, dans chaque club, il s'est battu avec un mec, en fait. C'est ça l'histoire.
À Marseille, il s'est jamais battu avec personne. Par contre, il y a eu l'histoire du maillot. Moi, j'ai joué avec lui à Marseille en équipe de France. Il a toujours été super apprécié dans le vestiaire à Marseille et en équipe de France aussi. Hein.
Son dernier match avec l'équipe de France, il le joue le 18 janvier 95, c'est-à-dire pile une semaine avant.
Ah voilà, c'est ça. C'est où?
C'est Pays-Bas, France.
Ah ben ouais, à Utrecht, je gagne 1-0. J'y étais.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
Décidément, t'es partout.
Oui, puisqu'après le match, on était resté à Amsterdam.
Marrant, Utrecht. Dès qu'il y a un truc louche.
Et c'était, on était resté à Amsterdam pour entrer dans nos clubs respectifs avec Canto. Il y avait JPP et Lolo Blanc. Et on avait passé une bonne soirée. Je me souviens beaucoup.
Ah oui, tu m'étonnes.
Ouais, Amsterdam, dans la ville pour faire la fête après les matchs.
Ah oui, c'est mieux Amsterdam qu'Utrecht, toi.
Oui.
Voilà, Julien, pour revenir à l'Angleterre, aujourd'hui, là, Cantona, ça reste quand même la légende de Manchester, plus que le mec qui a mis un coup de pied à un supporter, quand même, non?
Ah oui, bien sûr, mais si tu veux, ça a encore plus amplifié sa légende, finalement, en Angleterre, parce qu'on en parle encore aujourd'hui, regarde, 25 ans après, les Anglais en ont beaucoup parlé lors du 25e anniversaire, tous les ans, de toute façon, à cette date-là, ils en parlent, et puis ça va avec le personnage qui, finalement, quand il est arrivé en Angleterre, tout s'est plutôt bien passé, mais ils entendaient encore ces histoires venues de France, comme Eric et toi, vous venez de le décrire, et ben ça leur a aussi à rajouter à sa légende anglaise. Après, pour les Anglais, plus que tout, c'est l'homme qui a révolutionné le football anglais déjà, qui a rendu ses lettres de noblesse au football anglais, qui a apporté le football anglais sur une nouvelle dimension. Vraiment, c'est lui qui a tout changé finalement en Angleterre pour beaucoup de gens, beaucoup plus que ce kung-fu. Mais le procès avait été suivi par un pays tout entier en savant qu'est-ce qui va lui arriver. Il avait quand même pris 14 jours de prison.
C'est là le chalutier, c'est là, non? C'est quand le moins tôt le chalutier, c'est après quand voilà, oui.
C'est ça, exactement. C'est donc après, il fait appel. Mais au début, quand il prend les 14 jours de prison, il dit à son avocat.
Les mouettes et le chalutier, ça c'est légendaire.
Oui, quand même.
On écoute.
When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much.
Et tu sais quoi, Gilbert? Eh ben, il paraît que cette année, c'était le sujet du bac, et ben, on l'aura pas, malheureusement. Parce que ça, c'est, je veux dire, il faut réfléchir sur celle-là.
Oui.
Tu peux traduire, Julien?
Oui, bien sûr. Donc, c'est quand les mouettes suivent un chalutier ou le chalutier, c'est qu'elles pensent qu'on va leur jeter des sardines.
Qu'elles espèrent qu'on va leur jeter des sardines.
Vas-y,
Julien.
La petite histoire de cette anecdote, c'est que quand il prépare l'appel, donc justement avec ses avocats de Manchester United, il leur dit à un moment est-ce que vous pensez qu'à la fin je pourrais dire quelque chose? Alors ils disent bah oui, normalement tu peux. Il dit d'accord. Il dit comment on appelle les gros bateaux là qui vont sur la mer? Alors, il dit un chalutier. Ah oui, c'est ça, chalutier. D'accord. Et donc il le voit écrire sur un bout de papier. Et comment vous appelez en anglais les oiseaux là les mouettes? D'accord, les mouettes. Et après, sardine étant le même mot, sardine, c'était facile pour lui après. Et donc, effectivement, c'est comme ça qu'il a préparé. Donc, je pense que. Facile, ouais. Bah oui. Et je pense que. Enfin, les Anglais continuent toujours à chercher aujourd'hui, hein, même 25 ans après, ce qu'il a voulu dire.
Bah, pourtant, c'est pas compliqué. Moi, j'ai jamais compris qu'on croit que c'est si mystérieux. C'est super clair.
Bah oui, c'est très clair.
Non, c'est pour les tabloïds anglais, je pense.
Ouais, c'est pour vous dire, vous venez en fait me voir parce que vous pensez qu'il va y avoir à manger avec moi, quoi. Voilà.
C'est ça. C'est l'odeur du sang de Domenech.
C'est ça, exactement.
Exactement.
C'est un peu ça. Exactement.
Mais tu sais.
Et donc il avait pris 4. Vas-y, Eric.
Non, 8 mois, il a pris non.
Alors d'abord, il prend donc ses 14 jours de prison, et au moment où ça tombe, il appelle la famille à Marseille, et il est à deux doigts de dire à ses avocats, vous savez quoi, j'en ai marre de toutes ces histoires, j'en ai marre de tout ça, je vais accepter, et je vais faire 2 semaines en prison, et comme ça, après, ce sera réglé. Et finalement, ils arrivent à le convaincre que pour des millions de raisons, c'est pas une bonne idée d'aller en prison, donc ils finissent par faire appel. Au lieu de ça, il fait 120 heures de travaux d'intérêt généraux, où finalement, il va donner des cours de foot à des enfants défavorisés de Manchester, ce qui est très bien, ce qui lui va très bien. Et puis, et donc il fait cet appel et il est suspendu, tu as raison, 8 mois, et puis après même 9 mois de. Voilà, exactement. Il revient en septembre 95.
Mais souvenez-vous quand même, comment son sponsor de l'époque, qui a toujours été son sponsor d'ailleurs, Nike, qui fait une pub où il est adossé à un mur, tout désolé, où il raconte
tout ça. Bien sûr, ça a servi son marketing.
Exactement. Et il y avait.
C'était avant qu'il veuille vider les banques, hein. C'était quand il mettait l'argent dedans.
Et dans cette pub, il avait rappelé aussi, on a oublié, le sac à merde à Henri Michel quand même, qu'il a suspendu. Et oui, il en parle dans ce pub de Nike, Eric d'ailleurs. Nike, ils étaient énormes pour les pubs à l'époque. Ils surfaient même sur les écarts de leurs joueurs emblématiques comme l'était Eric.
C'est pas qu'ils surfaient, c'est qu'ils construisaient le marketing sur le côté rebelle.
C'est vrai.
La plus belle pub d'ailleurs de Nike, dont les Anglais parlent toujours, c'est celle qui disait, avec une photo d'Eric et de son numéro 7 avec le col relevé, 1966 est une grande année pour le football anglais. C'est l'année où est né Eric Cantona, plus que l'année où ils ont remporté la coupe.
Et là où c'est énorme avec Nike, c'est quand même, il y a pas beaucoup de joueurs qui, une fois leur carrière finie, continue à être l'emblème de Nike. Ouais, souvenez-vous de la fameuse pub de Nike dans la cage là avant je sais plus quelle Coupe du Monde où les joueurs Nike vont jouer contre les diables tout. Là. Vous souvenez
de les joueurs phares de l'époque.
Là, je crois qu'Eric jouait encore à l'époque et derrière il était un maître de cérémonie, c'est-à-dire il avait arrêté de jouer, mais c'est lui qui gérait l'équipe des trucs là. Enfin, c'est dingue, il a fait beaucoup de pubs derrière.
Excusez-moi, mais la plus belle pub de Cantona, c'est la pub Bic sous la douche.
Ah oui. Avec son frère, d'ailleurs. Il a même fait avec son frère.
Big orage.
Avec son frère, ouais.
Avec Jojo. Ouais.
Ah ouais. Non, c'est vrai qu'il y en a plus des comme ça. C'était cool.
Et juste pour finir, Gilbert, on parlait de l'histoire, on parlait tout à l'heure de sa légende et de son héritage aussi. Finalement, le plus beau dans cette histoire, c'est que quand il revient le 1er octobre 95 dans un derby en plus contre Liverpool, où il fait une passe d'aise sur le premier but, et quand son équipe est menée 2-1 en fin de match, il marque le penalty pour faire 2-2. Et Eric, tu en parlais après, tout à l'heure, en disant qu'il était bien revenu après. Ils sont champions cette année-là, donc 95-96, où il marque 14 buts dans la saison, donc après avoir raté les deux premiers mois de la saison, ils font même le doublé puisqu'il marque en finale de la Coupe d'Angleterre encore une fois contre Liverpool. Et voilà, il est revenu encore plus fort qu'il l'avait été les 8 mois avant. Et pendant ces 8 mois d'absence, il est notamment allé chasser à Hereford chez des amis de directeur de Manchester United. Même son père venait de Marseille pour aller avec lui à la chasse. Il a fait autre chose que du football. Il s'est vraiment vidé la tête. Et je pense que ça lui a permis de revenir encore plus fort pour les deux ans et demi qu'il aura après avant de prendre sa retraite.
Merci Julien.
C'était le fils de Sir Alex, Eric. Et pour ceux, parce que à l'époque, on voyait les buts le dimanche soir, puisqu'il n'y avait pas autant de matchs comme on les voit aujourd'hui. On ne pouvait pas se rendre compte de ce qu'il représentait là-bas. Moi, j'ai fait son jubilé, du coup. Enfin, j'ai pas joué, mais j'ai participé. C'est dingue. Le jubilé d'Eric à Manchester, c'est dingue. J'avais jamais vu ça. C'est quand tu te racontes, les mecs chantaient tous la Marseillaise pour faire chanter tout un stade de la Marseillaise en Angleterre.
Surtout les Anglais, ouais.
Il faut le faire. mais même encore aujourd'hui, puisqu'avec Jérôme, on y va de temps en temps, voilà.
Il chante sa chanson encore.
Oui, mais il chante sa chanson. Dans toutes les échoppes qu'il y a autour du stade, il y a toujours le maillot de Cantona.
T'as le drapeau avec Cantona, avec King, le
truc. C'est impressionnant.
Merci Julien.
Merci à vous.
Merci, bonne soirée. C'était l'histoire de Canto en 95. Voilà.
Et aujourd'hui, il y a peu, il fait un clip avec Liam Gallagher sur son dernier morceau où il fait le roi, alors que Gallagher est quand même un fan de City, invertébré, comme dirait l'autre. Vous n'avez pas vu ce clip ?
Si, moi je l'ai vu.
C'est merveilleux. Regardez, merveilleux. Morceau à la Lennon, là, merveilleux.
Sa dernière vidéo, c'est pour soutenir le professeur Raoult. Tu l'as vu celle-là ?
Aussi.
Ouais, celle-là, elle est moins.
Et il est bien, c'est un de ses potes. Voilà. C'est un de ses potes.
Oui.
Dans quelques instants, on revient et on va parler de l'OM. Enfin, il y a un lien entre Cantona et l'OM, évidemment, vous le savez. Mais parler de l'OM avec un autre Marseillais fou furieux, ce sera dans quelques instants dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo, Jérôme Rotten, Willy Sagnol, Eric Dimeco. Alors vous l'avez entendu un peu en partie, là, parce que Paul Vessieux a voulu faire son malin et balancer la pub Big juste avant la pub. Ça mérite quand même qu'on l'écoute attentivement. C'était il y a 15 ans. Quand on
l'appelle. Je peux t'emprunter ton rasoir, s'il te plaît. Le rose.
Rasoir Big Rose de l'âme, pour nous, les femmes.
Il s'appelle Revier.
Non mais franchement, il y avait quand même des pubs bizarres à l'époque. Hein.
Ouais.
Voilà. Attention messieurs, l'OM. L'OM avec qui ? Non pas avec un joueur, non pas avec un dirigeant, mais avec un supporter de l'OM qui s'appelle Yacine, qui est avec nous au 32-16. Yacine, bonsoir.
Salut Gilbert, salut tout le monde.
Alors Yacine, je regrette que tu ne sois pas avec nous en studio, enfin avec moi, puisque moi je suis tout seul, hein, malheureusement avec le confinement on fait du radio-travail dans l'after, il était prévu que tu viennes nous voir à Paris. Les gars, moi j'ai vu Yacine sur des vidéos, sur des sites de foot à Marseille, parce qu'à Marseille il y a plein de podcasts de foot, de sites, de mouvements divers et variés, et j'ai rarement vu quelqu'un capable d'être aussi fort pour se rappeler des événements récents de son club. Déjà, Yacine, t'as quel âge ?
23 ans, bah, pour répondre à ce que vous avez dit au début de l'émission, il y a une petite erreur. Je ne connais pas tous les matchs du 21e siècle, mais depuis 2003-2004. Voilà.
Ah,
et pour répondre à Eric, évidemment que je le connais, j'ai même suivi ses débuts sur RMC, et quand Coach Courbis était parti en prison en 2009-2010. Et je me rappelle quand Coach Courbis qui était revenu avant un match Lens-OM de Coupe de France, il était revenu sur RMC, il avait dit qu'Eric Dimeco l'a fait plus que le remplacer, il était monstrueux, et c'était le départ d'Eric Dimeco sur RMC.
Alors, tu te souviens aussi de tout ce qui s'est passé sur RMC?
Ah ouais, sur RMC, tu as vu le match, le...
Alors, les gars, pire que ça, je suis l'actualité à fond et tout. Je voulais dire, il y a deux jours, vous avez rendu hommage à notre grand et éternel président Papa Diouf. Et Jérôme Rotten lui avait rendu un très bel hommage, mais par contre, dans son anecdote, il s'était trompé, il avait fait une petite erreur. Alors, il avait dit juste avant le match de l'Ammoniaque que Papa Diouf lui avait glissé en fait la phrase que comme quoi Jérôme n'a pas choisi à cause de ma couleur de peau. Mmh. Alors Jérôme, en fait, il te l'a pas dit avant le match de l'Ammoniaque, mais il te l'a dit avant le match retour de 2008-2009 au Parc des Princes en PSGOM quand il a sorti son livre. Et c'était l'OM qui avait gagné d'ailleurs ce match à 3-1 et vous étiez deuxième au classement, vous êtes passé devant.
Tu
sais même qui est-ce qui lui a dit alors que lui le sait. C'est quoi cette histoire?
Mais je m'en rappelle.
Non, mais en fait, toi, tu parles, excuse-moi, hein, je te coupe, mais pour te répondre, tu parles de l'anecdote qu'il a écrit dans son livre. Et c'est vrai que c'était avant le match, ce fameux match en 2008, c'est ça, non?
Oui, 2008.
Mais cette phrase, ce que je veux dire, c'est que moi, il me l'a dit avant, donc ce fameux match de l'Ammoniaque. C'est pour ça, en fait. On s'était chopé déjà par rapport à ça, parce que l'histoire de pourquoi je ne l'ai pas choisi comme agent à l'époque remontait de fin des années 90, tu vois. Donc ça datait déjà.
Ah, oui.
Yacine, rappelle-nous un peu quelques faits d'armes. Est-ce que tu te souviens de PSGOM avec Jérôme?
Mais bien sûr, mais en fait, même pire que ça, le premier OMPG que j'ai vu au stade Vélodrome, c'est Jérôme qui a ouvert le score. Alors, le pénalty, il devait pas être
sifflé. Oh merde.
L'arbitre, là, il nous avait volé, là. Mon camarade Janet, la faute, déjà, elle est en dehors de la surface. Et en plus, le
tableau,
il n'y avait pas faute.
Ouais. Ouais. Ça, les limites, on va.
On va se pas rentrer dans ces détails-là. On va faire un débat sur l'arbitrage de match qui a Kaysak.
Mais heureusement, Eric, t'inquiète pas, on l'a gagné ce match. T'inquiète pas.
Ah, ça va alors. Ouf.
Alors, c'est vrai, 2-1. Il s'est passé quoi après le but de Jérôme?
Ben, alors, par contre, le penalty était retiré. Alors, je me rappelle plus pourquoi, mais je suis sûr que le penalty était retiré. Et après, Jérôme, il a célébré comme un fou devant les supporters parisiens, évidemment. Mais heureusement, on a marqué deux buts avant la fin de la première mi-temps par Tai Taiwo et Mamadou Niang. Et tranquillement, on a gagné. Mais c'était une année où le PSG avait joué le maintien. C'était l'année où le PSG s'était sauvé à la dernière journée avec le doublé d'Amara Diagne.
Mais Jérôme, il en a gagné un autre au Vélodrome. Tu sais le score ou pas?
Oui. Alors, ça, je vais vous raconter une anecdote.
C'est quoi le score?
J'étais aussi au stade, c'était quand PSG avait gagné 4-2 au Vélodrome. Et alors, ce match-là, évidemment, Paris avait battu avec maîtrise contre Marseille. Et Jérôme, en fait, il marque le troisième but sur un coup franc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Guillaume Haro, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, il est près du but du ballon. Au début, on croit que c'est lui qui avait marqué. Et d'ailleurs, même, je pense qu'il gêne Mandanda, en fait, inconsciemment, parce qu'il y a un rebond, en fait.
Ouais, c'est vrai.
Et le speaker du stade, il avait même dit but de Guillaume Haro, alors que c'était Jérôme Rotten qui avait marqué. On avait tous cru que Haro avait claqué un triplé, alors que non, c'était Jérôme qui avait marqué le troisième but.
C'est la vérité.
Raconte aux autres que les quatre buteurs marseillais, c'est qui? Non, les quatre buteurs parisiens, alors c'est 2 de Haro.
Mais Gilbert, tu veux me faire souffrir là ce soir là. Tu me parles de.
Non, mais il faut que tu leur montres que c'est toi le meilleur, que tu sais tout. Montre à la France entière que l'encyclopédie de l'OM à partir de 2003, c'est toi.
Ouais, c'est vrai. Bah, ouverture du score de Guillaume Haro, donc alors je pourrais pas vous dire une minute précédente, mais
je croyais que tu savais tout, moi.
Ah ouais, c'était en première. Moi je vais te dire, en première mi-temps.
Guillaume Haro, il ouvre le score de la tête sur un corner.
Et qui lui a donné la balle?
Ouais, c'est toi. Mais c'est bon, tu
crimes
trop, Jérôme.
C'est vrai, c'est moi. Je me souvenais plus, c'est pour ça, je voulais savoir.
Oui, mais je veux pas trop t'enfoncer. Alors il y a une mésentente entre Michael Landreau et Grégory Bourillon. Bon, Landreau, c'était le spécialiste des boulettes à l'époque au PSG. Mamadou Niang de la tête, il égalise. Ensuite, deuxième but, c'était Valbuena, en fait, il reprend une frappe.
Bravo, Valbuena, juste avant la mi-temps, non? C'est ça?
C'est vrai, exact.
Et la deuxième mi-temps est totalement parisienne. Alors, Peggy Luyundo, même lui, il a marqué, là.
C'est vrai.
Je crois, il est Jérôme Rotten, il a marqué, évidemment. Et puis Guillaume Moirot pour nous achever. Et ce match-là, ben, en fait, ce match-là, je crois que il était marqué par Atem Ben Arfa parce qu'il avait refusé de s'échauffer, ce match-là. Et c'était un peu la crise. Et sa première défaite de l'OM de la saison en Ligue 1, d'ailleurs. C'était la seule équipe qui était vaincue à ce soir-là. Et ça avait lancé le PSG dans une très belle dynamique.
Et des 4-2 et des victoires 4-2 du PSG au Vélodrome, il y en a eu d'autres ou pas?
Alors attends, je vais me refaire. Donc moi je suis depuis 2003-2004, Daniel. Hein. 2003-2004,
ah ouais, non, mais c'est 2005. Après, celle dont je te parle, c'est après, mais il y en a d'autres. Hein. Très curieusement, c'est un score qui est arrivé.
Alors il y a
une
Coupe de France, ça c'est sûr, ça sent Coupe de France, mais c'est pas au Vélodrome. Bravo. Attends, je réfléchis, Daniel. Alors attends. Donc l'année dernière c'était Garcia avec Garcia, non. L'année d'avant il y a eu de partout. 2016-2017, non, il y a eu le 5-1, c'est pire. 2015-2016, non, il y a 2-1 pour PSG. 2014-2015, il y a 3-2 pour le PSG, non.
Ah, merde, il n'y a pas une victoire marseillaise là-dedans.
PSG. 2012,
il n'y a jamais de victoire marseillaise.
Mais les gars, ouais, franchement, mais 2012, pourquoi, Eric, 2012, pourquoi on est parti sur les OMPSG?
Il n'y a pas eu de 4-2, Daniel. Daniel, il n'y a pas eu de 4-2 encore après ce match-là au Vélodrome, il n'y a pas eu de 4-2, non.
Ah bon, il me semble même. Je dois me tromper. Non, il y a celui de
non, mais France, en fait, hey, Daniel, si tu poses une question qui est dehors, là, c'est pas beau, là.
J'ai répondu correctement, Eric. T'inquiète.
Oui, je sais.
Je voulais te piéger, Daniel, t'inquiète. Je pense qu'il pense à la Coupe de France. Il pense à la Coupe de France.
C'est le match de Coupe de France.
Et alors, donc, en fait, comment tu fais pour retenir comme ça? Moi, je trouve ça incroyable. Que tu arrives à te souvenir des buteurs de chaque match.
Non, mais des anecdotes dans le match, surtout.
Et en plus,
des
anecdotes dans le match.
C'est ça.
En fait, je les vis, les matchs. C'est le foot, c'est une émotion, le foot. Et même, en fait, il n'y a pas que des matchs de l'OM dont je me rappelle, tu vois. Ça m'arrive de suivre aussi d'autres équipes de football français en général. Mais c'est vrai qu'avec l'OM, je me rappelle par exemple des buteurs, parce qu'en fait, je me rappelle des buts. Le match, je le vis, c'est émotionnel, c'est. Et voilà, je vis. Et même, en fait, je me rappelle de pratiquement tous les matchs que je vois. Par exemple, les PSG Lyon, je m'en rappelais, c'est obligé, tu vois. C'est tout. Tous les principaux matchs quoi, que je vois, les matchs importants. Ne me demandez pas Angers-Dijon parce que je vais pas regarder ça non plus.
Mais et tu te souviens, bon, parce que j'ai compris que tu te souvenais des actions, des buteurs, des anecdotes et tout. Mais tu te souviens par exemple du nom de sur une saison complète, le classement des buteurs des joueurs de l'OM par exemple, le nombre de buts qu'on a pris, le nombre de buts qu'on a marqué.
Nombre de buts qu'on a marqué, parce que je retiens pas en fait les chiffres. En fait.
Ah, d'accord.
Mais par contre,
tu revois les actions quand tu parles de match.
Exactement.
Voilà. D'accord.
Dis-moi, t'es plutôt matheux ou littéraire?
Ben matheux, je fais des études de maths en fait.
Ah, ça doit être pour ça. C'est peut-être pour ça. Il y a peut-être un lien. Enfin, je sais pas si. Tu l'as déjà fait.
Tu sais que je sais plus qui c'était là, un mec qui était très très fort en maths et qui expliquait que les chiffres pour lui dans sa tête c'était des couleurs. Tu te souviens pas de ce gars-là? Pareil, c'est-à-dire qu'il visualisait ce qu'il faisait par des, c'est-à-dire dans sa tête. C'est pas comme nous.
Ben attends, Yacine. Si moi je te dis par exemple Marseille-Lyon 2008.
Alors, mais 2007-2008 ou 2008-2009?
Ah, pardon, excuse-moi, 2007-2008.
Ben 3-1, il y a eu un doublé de Mamadou Niang, un but de Djibril Cissé et un but contre 150 de Loric Salah.
Ok, si je te dis Marseille-Monaco 2014.
Mais ça dépend, 2013-2014.
Ah, pardon, 2013-2014.
Super.
1-2, but de Lucas Mendes et après en deuxième mi-temps, et alors il y a un but de Falcao et d'Emmanuel Rivière.
Non mais moi, c'est pas possible.
Mais va plus loin, 2005. J'ai pas mon iPad là,
Bordeaux-Marseille, 2004-2005.
3-2, c'était la dernière journée de championnat. Et je crois que Peggy Lindola, il a dû claquer un doublé, un but de Fabrice Fiorez. Ouais, c'est la dernière journée de championnat.
Encore,
et Rennes nous dépasse au classement, là, on finit 5e.
Coupe de la Ligue 2019, Marseille-Strasbourg.
Ah, tiens, Gilbert, tu chauffes, là. Un partout. Gustavo, je crois qu'il a marqué.
Mais oui!
J'aime beaucoup ton club parce qu'il nous a quand même passé Mamadou Niang, hein, tu le sais.
C'est vrai. Et
ils vous ont offert la Coupe de la Ligue en 2005 au final. Il a marqué le but face à Caen en 2005. Il y a eu le but aussi de Jean-Christophe Devaux sur le coup franc.
C'est le deuxième Jean-Christophe Devaux en l'occurrence.
Quoi?
Le fils de Raymond.
Et donc les finales de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue d'autres clubs que l'OM, tu t'en souviens aussi ou...
Ben en fait, je peux pas pas te dire précisément ça, mais comme je suis globalement football français, je me rappelle tous les matchs que j'ai vus, puisque les matchs de Coupe d'Europe de football français, je vais me rappeler. Par exemple, le PSG CSKA Moscou de 2004-2005, je vais me rappeler le triplé de Sergueï Sema, tu vois.
Ah, celui-là, comme par hasard, tu t'en souviens?
Ouais. Bien joué, Yacine. Jérôme et Daniel. C'était pour taquiner Jérôme et Daniel. Non, mais je me rappelais des principaux matchs. Je me rappelais aussi de l'équipe de France. Alors, l'équipe de France, je me rappelle jusqu'en 2014, en fait, précisément.
Et Coupe de France, tu te souviens?
Je le vois venir, lui, France, avec ses gros sabots.
Coupe de France 2006.
Arrête, Jérôme, mais
tu PSG Marseille, je crois, non? Tu te souviens du match un peu de.
Oui.
Ben, je sais pas, je te pose la question.
Parce que, tu me rappelles, mais bien sûr, je me rappelle, j'ai même pleuré à cause de toi dans le. Non, il y a ouvert une frappe exceptionnelle de Bonaventure Kalou. Et après, il y a eu. Alors, on a essayé de revenir dans le match.
Sur une passe en plus, c'est une passe décisive de Taïwo sur le but de Kalou.
En fait, Edouard Cissé, c'est un tacle Taïwo et Bonaventure Kalou.
Taïwo qui déconne complètement, ça.
Qui repart proprement alors qu'il vient de récupérer un ballon sur ce côté.
Franchement, les gars, Taïwo, il a déconné, franchement. Parce que. Et après, bon, le deuxième but, c'est Dorasso, je sais pas, il a jamais fait un bon match au PSG à part son premier match la première journée contre Metz 4-1, mais il a jamais fait un bon match. Le mec, il vient, il prend le ballon du milieu de terrain, il te claque, il frappe, je sais pas d'où elle sort.
Tiens, dis-moi, on parlait de l'épopée 2004 hier soir avec un auditeur un marseillais, et on a refait un peu la compo. Tu te souviens de la compo de la finale face à Valence?
Je pense que je vais la retrouver. Alors
vas-y.
Barthez dans les buts.
Ouais.
Bon, le gardien, c'était l'entraîneur, c'était José Amigo. Il a dû jouer, je pense, en 3-4 en 3-4-1-2. Alors, en défense, il y avait
Abdoulaye
Meïté, Brahim Amdani, capitaine. Alors, ouais. Abid Bey. Alors, après, arrière latéral droit, ça devait être Demetrius Ferreira. Arrière latéral gauche, Manuel Dos Santos. En 6, il a dû mettre Sylvain Ndiaye et Mathieu Flanini. En 10, je pense qu'il a mis Kamel Merien. Et devant, c'était Drogba Marley. Mais Drogba, il avait joué blessé la finale. Hein. Et Barthez, il avait pris un carton rouge un peu avant la mi-temps.
Tu veux pas qu'on fasse comme Gilbert, pour le quiz, là, équipe de Marseillais, je peux jouer à Yacine ou non? Alors,
non, mais Yacine, il va choisir son partenaire, hein, pardon. Donc, Yacine.
Drogba avait joué blessé, tu sais où il s'était blessé?
Oui, c'est à cause de ton match, là, à Monaco, là.
Ah oh, merde, oh merde encore. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Quoi, Monaco-Marseille?
Monaco-Marseille, parce que en fait, vu que les deux équipes, nous on jouait le titre de Ligue 1, mais Marseille cette année-là, je crois que si je me souviens bien, ils étaient pas dans les, ils ont fini 5-6e, non?
Et 7e, tu vois. C'est Nantes qui est
voilà, 6e. Et vu que ils fanfaronnaient parce qu'ils étaient qualifiés aussi pour la finale de l'UEFA, il y a eu quelques mots qui nous avaient pas plu dans la presse, et c'est vrai que les défenseurs s'en étaient chargés de Drogba, et on avait des vrais bouchers nous derrière, tu vois, et
c'est vrai, ils sont passés par l'avaient blessé. Hein.
ouais, qui sont passés les deux, j'y vais, Rodriguez, mais ils sont occupés, surtout Rodriguez, je crois.
Il y a aussi Patrice Evra aussi.
Yacine, reste aussi, avec nous. Tu vas participer au quiz. Tu vas pouvoir choisir ton camp dans quelques instants avec Julien Cazard qui nous rejoint. On se retrouve tout de suite dans l'After.
RMC. L'After Foot. Gilbert Bribois.
Eric Dimeco, Willy Sagnol, Daniel Riolo, Jérôme Rotten, plus Yacine, supporter de l'OM qui est avec nous. Plein de messages hein, pour Yacine. Les supporters de l'OM disent respect. Il n'y a que chez nous qu'on envoie des comme ça, me dit par exemple Jérôme qui est supporter de l'OM. Voilà. Et puis Khaled me dit il faut organiser un duel Yacine-Marseille contre Corentin de Caen. Notre ami Corentin qu'on a régulièrement avec nous également.
Je crois que là
Corentin.
Sur les matchs de Caen?
Sur tous les matchs.
Sur tous les matchs.
Comment ça
sur les OM Caen.
Sur les OM Caen, voilà. Peut-être.
Non, mais Corentin sur Caen, il est super fort. Hein. Il peut rivaliser avec Yacine sur l'OM. Hein.
Attention, Julien Cazard nous rejoint. Julien, bonsoir.
Bonsoir à tous. Alors, déjà, bonsoir Yacine. Je voudrais savoir, est-ce que tu as une bonne mémoire, tu te rappelles de tous les titres gagnés par l'OM depuis 2003?
Ça n'a pas été du même, ça. Non, mais oui, évidemment. Mais par contre, je me rappelle aussi de tous les quarts de finale disputés par le PSG depuis 2003.
Oh, bien joué, Yacine!
Écoute, je crois que c'est plus que le nombre de titres de l'OM. C'est un plus!
Julien, plus que ça, oui. Je me rappelle de ton sketch avec Action Discrète où Paris en OM, où tu allais avec l'OM au camp des loges, ça j'ai kiffé.
Ouais. Et j'ai su fait courser par une centaine de supporters du PSG avec les maillots de Marseille. Ça aurait été quand même dommage que je me fasse péter la gueule.
Avec ton passé, c'est dingue.
Et ce qui est génial, c'est qu'à l'époque, on n'était pas encore très connus, et dans le Parisien, le mec qu'ils avaient pris, ils avaient pris en photo, ils savaient pas que c'était des faux supporters. Ils avaient mis ma photo avec en maillot du, avec en supporter de l'OM, avec marqué des supporters de l'OM chambre au parc. T'imagines au cordial, t'imagines mes potes qui m'avaient pas eu depuis longtemps, qui voient ça dans le Parisien. Hein. Moi avec un maillot de l'OM, quelle horreur, quel enfer. Heureusement c'est pas du numérique, c'est introuvable. Et je suis très content. Donc écoutez là. On enchaîne avec un quiz spécial Olympique de Marseille sur les années 2010. Non, pas du tout, c'est pas vrai.
C'est parti, jingle.
C'est nul, magnifique. C'est nul ce jeu, je comprends que dalle.
Yacine, il faut que tu choisisses ton coéquipier. T'as le choix entre l'équipe Rotten, l'équipe Dimeco, l'équipe Sagnol, l'équipe Riolo ou l'équipe Bribois.
Gilbert, c'est qui a les meilleures stats?
C'est moi.
Alors toi?
Oh, ah ben dis-moi, oui. Hey, il est fou lui, puisque tu es fort, soi disant. Au contraire, tu devrais vouloir t'affronter au plus fort. Yacine, tu nous fais honte là, déconne pas. Là,
pour faire des charades et dire que Paganelli ressemble à
Astérix. Oui, tu me diras, il faut pas, tu as raison. Ouais. Pour des qui l'a dit, qui l'a pas dit, c'est pas la peine.
Je remercie Daniel qui sait toujours mettre en valeur mon travail. Et ça fait plaisir, ça s'appelle aussi ça.
Dire que Paganelli ressemble à Astérix, ça, je t'avoue que
ça
là,
je ne sais pas.
Si t'avais suivi l'histoire de Paga à une époque avec Roland Courbis, ils étaient un peu comme aujourd'hui il est avec Baticle. C'est-à-dire qu'ils étaient, ils les appelaient Astérix et Obélix, les deux, voilà.
Mais ils avaient fait des sketchs. Ils avaient fait des sketchs. C'était comment il s'appelle, le rugbyman, le pote de Lagui, qui avait fait ça, voilà.
Voilà,
j'ignorais cette partie très intéressante de l'art français, pardon.
Malheureusement, la carrière de Paganelli. Malheureusement, la carrière de Paganelli, c'est surtout ça. Ça qui est terrible. Et jongler avec des moon boots. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts? On va commencer par le jeu préféré de Daniel. Le quoi qui kiff kiff. D'accord? Alors quoi qui kiff kiff. Attention. FC Nantes, Niort, Nîmes, Sochaux, Lorient, Lille, Nice.
Ils ont fait l'ascenseur. Ils sont montés, ils sont descendus.
Nantes, Niort, Nîmes, Sochaux, Lorient, Lille et Nice.
Ils ont gagné une coupe où ils sont en finale de coupe.
Alors,
une année
ça n'a rien à voir avec leur
palmarès. C'est le joueur qui est passé dans tous les clubs.
Ils ont un animal comme emblème.
Aiglon, lion, merlu, dog, voilà. Chamois et canari. Bravo. Merde. Gilbert. Un point.
Je pensais que c'est les joueurs.
C'est assez culture sport pour Daniel ou pas ça?
Ouais.
Pas compte. Ça va.
C'est vrai que finalement d'avoir Yacine avec toi, ça va pas être un avantage pour ces questions. Ne cherche pas, on l'a pas trouvé nous non plus. Yacine.
Je rappelle, si vous écoutez le podcast,
comme on peut nous. Hein, c'est les quiz sont pour Gilbert. Nous on se bat, on rame derrière.
Oui, c'est ça.
Daniel, il arrête pas de râler après les chouineurs sur le terrain. Il fait que chouiner.
Ils sont
sur mesure pour Gilbert.
Ah mais
c'est blague préférée.
Allez,
vas-y.
Je tiens quand même à rappeler que Yacine, si on écoute le podcast, a dit moi j'ai pas la mémoire des chiffres et il est dans les maths. C'est quand même rassurant. Alors attention, c'est quand même génial. Hein. Vous ça vous a pas choqué, mais moi je trouve ça génial. Attention, vous êtes prêts? Marc-Aurèle Caillard, Valérien Ismaël, Adriano, Cesare Maldini, Maxime.
Ah mais c'est un empereur romain.
Des empereurs romains, bien sûr, des empereurs Marc Aurèle, Adriano, Valérien, Césarée et Maxime.
Gilbert, il est génial ce jeu, j'adore moi les jeux de.
Ah,
de
bien sûr.
Tu as vite temps passé.
C'est comme les meilleurs footballeurs, tu les reconnais quand ils sont bons sur tous les terrains.
Je voudrais quand même en profiter pour rendre hommage à Willy Sagnol qui nous a quittés.
Qui nous a quittés, oui. Comme quoi, il n'y a pas que. Ça touche vraiment les vieux. Hein.
Mais non, mais attends, on a parlé pendant 30 minutes de l'Olympique de Marseille.
Ça tape fort dans les EHPAD.
Moi, Eric, moi je t'écoutais avec.
Religieusement. Alors attends,
exactement.
On enchaîne.
Chers amis auditeurs, on plaisante, c'est pas rigolo, c'est vrai. Mais on ne pouvait pas passer à côté.
Ouais, alors attendez, vous êtes prêts? Quoi qui kiffe kiffe? Roger Bolli, Youri Djorkaeff, Nicolas Wedek.
Ils ont été meilleurs buteurs du championnat, mais ex aequo avec un autre.
Alors, je bloque Gilbert.
Donc, ils ont été meilleurs buteurs de première division. Mais à chaque fois, ex aequo avec un autre gars.
Oui, mais avec quel autre gars?
Les E3 en fait. E3 étaient ex aequo.
Exactement, ils ont été meilleurs buteurs ex aequo à 20 buts en 94. Bravo Gilbert, c'est de la culture pure là à un moment donné. Daniel pouvait jouer.
Ouais, mais attends, Julien, il faut avoir 50 ans pour connaître ça. Attends,
moi
j'ai 23 ans.
Yacine, sois patient, tiens, aura un de ballon à mettre au fond. C'est là qu'il faudra le mettre au fond.
Respecte les grands clubs, j'ai 45.
Yacine, si je te dis Austerlitz, tu penses à une guerre ou tu penses à Napoléon?
Ou du métro. Ou le métro.
Bon, eh bien, aucun de nous n'est aîné. Aucun de nous n'est aîné. Attention, on va jouer un nouveau jeu. Alors déjà, je voulais rendre un hommage quand même à Pape Diouf. Et Pape Diouf nous a quittés. Et Pape Diouf, c'est quand même un homme du verbe. Et c'était qui mettait souvent en valeur l'Afrique aussi. Et ben je vais sortir chacun votre tour. Je vais vous donner un proverbe africain. Vous devez me trouver à quoi il correspond et ce qu'il veut dire. Attention, je peux le faire avec l'accent même si vous voulez.
Non.
Parce qu'attention,
non,
c'est
non.
Eh ben si. C'est
non.
Ça qui est intéressant. Je
le fais avec l'accent. Non, c'est chacun son tour.
Fais pas ça, Julien, s'il te plaît.
Attention.
C'est chacun son tour, Julien.
Chacun son tour. On va commencer par Gilbert Bribois. Est-ce que t'es prêt, Gilbert?
Vas-y.
Quand un éléphant trébuche, ce sont les fourmis qui en pâtissent. Que veut dire ce proverbe ?
Eh bien,
quand un éléphant trébuche, ce sont les fourmis qui en pâtissent.
Eh bien, ça veut dire que quand...
S'il ne trouve pas, on peut dire nous ?
Non, tu la fermes, chacun son tour.
Ça veut dire que, par exemple, quand un grand pays, par exemple, est en crise, bah, c'est souvent ses petits voisins qui en pâtissent.
Oh, c'est pourri ce qu'il a dit là.
Non, ça concerne une personne. C'est quand un chef de famille ou un chef d'entreprise est affaibli. Ce sont les inférieurs qui subissent les conséquences. C'est un peu quand les parents boivent, c'est les enfants qui trinquent. Donc je ne peux pas te donner le point. Attention, Daniel Gilbert, Daniel Riolo. Est-ce que tu es prêt, Daniel?
Daniel Gilbert. Ouais,
tu sais qu'à la fin du confinement, il aura la même coupe. Hein.
Midi première. Est-ce que t'es prêt, midi première? T'es avec moi?
Ouais.
Plus un singe monte sur le cocotier, plus il montre son derrière. Que veut dire cette phrase?
Mais c'est facile, ça. C'est trop facile.
Plus un singe monte sur le cocotier, plus il montre son derrière. Daniel, une fois.
Plus tu veux te mettre en évidence, plus tu t'exposes.
Ça veut dire ça. Il ne faut pas prendre la grosse tête. C'est ça que ça veut dire, exactement. Je ne peux pas t'accorder le point, Daniel, malheureusement. Attention, Eric Dimeco.
Oui, présent.
L'œuf, attention, l'œuf ne danse jamais avec la pierre.
Alors, quand tu es fragile, tu ne combats pas contre l'effort.
Eh oui, elle est bonne, c'est ça.
Il faut reconnaître avec la pierre. Eh oui, il faut reconnaître sa valeur quand même.
Ben c'est ça. Attention, oui, Jérôme. On va passer à Jérôme Rotel, tu es prêt?
Médite sur l'œuf et la pierre, Jérôme. Médite.
Ouais. Lui, c'est surtout sur le singe au cocotier qui montre son dernier. Attention, Jérôme, est-ce que t'es avec moi?
Ben oui, vas-y.
On entend un arbre tomber, mais pas une forêt pousser. Qu'est-ce que ça veut dire? On entend un arbre tomber, mais pas une forêt pousser.
C'est nul.
Eh ben, tu notes ta langue au chat.
Oui.
Ça veut dire qu'on donne souvent plus d'importance aux choses graves. On en parle. Elles sont peu nombreuses, mais on en parle parce qu'elles font du bruit.
Ah oui, c'est vrai.
Elles font plus de bruit les choses graves que les choses positives.
Non, attention. Voilà, tu t'es trompé. On me donne plus de pression, plus de d'importance à une chose négative qui est sensationnelle qu'à des choses positives qui fourmillent.
C'est ça, exactement. Est-ce que il connaît bien les proverbes africains, Eric. Bah, est-ce que Yacine est prêt? Yacine,
le pays africain le plus au nord.
Il est prêt, mais il va pas trouver la réponse à mon avis.
Attention. T'es prêt, Yacine? Si le crocodile n'a pas de grosses couilles, c'est parce qu'il a les pattes courtes.
C'est quoi ça?
Non, cherche pas, je dis que c'est pas vrai, c'est pour rien. Allez, on passe au quiz d'après. C'était pas vrai celui-là.
Ça n'a pas une pour Willy.
Ah, si, j'en ai une pour Willy. T'es pas Willy?
Oui, attention.
Alors celle-là elle est bien pour l'after, elle est parfaite. La femme qui se voit gazelle trouve forcément en face d'elle un homme lion. La femme qui se voit gazelle
qui cherche trouve.
Alors non, c'est un peu pas loin que, ça.
Que,
c'est pas loin
que,
c'est
que.
La femme, alors ça plairait à Marlène Schiappa. La femme qui se voit gazelle trouve forcément en face d'elle un homme lion.
Willy, écoute-moi, ne la trouve pas celle-là.
Si tu veux,
tu finis
toujours par faire pécho. Je sais pas.
Ne la trouve pas parce que sinon tu vas être suspendu d'antenne. Ne la trouve pas celle-là.
Je vais être suspendu à ta place. Non, merci.
Les prochaines questions.
Ne t'inquiète pas. Ça veut dire juste, si tu es séductrice, attends-toi à plaire aux prédateurs.
Ah, voilà.
Tu t'en es bien sorti.
Voilà. Attention, comme on a eu notre ami Fred Oisège, donc on a rendu un peu hommage à la Belgique.
Tu vas pas faire un questionnaire belge, pitié.
Eh ben si, alors bien sûr. On va faire un questionnaire avec l'accent belge. Je vais vous donner des indices. Vous allez me trouver un joueur qui a joué dans l'équipe de Belgique à la Coupe du Monde 2018. Attention, vous êtes prêts?
Allez, c'est parti.
Attention, il vaut mieux qu'une blonde.
De Bruyne.
Qui l'a dit en premier?
Moi,
De Bruyne.
C'est moi. Décollez pas là-haut. Mais Yacine, s'il te plaît, toi, attention. Tu sais que je peux te croiser à tout moment à Marseille.
Éric Dimeco.
Ça va vite là-haut. Ça va trop vite pour Gilbert.
Attention, vous êtes prêts? Civil, affable, avenant, déférent, prévenant, bienséant. Civil, affable, avenant, déférent, prévenant et bien.
Courtois, mais oui, putain,
mais quel nul.
Bien sûr. Attention, vous êtes prêts? Diable rouge deux fois. Juliette, Madame Serfati, Shaquille O'Neal.
Hasard.
Non. Diable rouge deux fois. Juliette, Lukaku. Madame Serfati, Lukaku. Bien sûr, puisqu'il était Diable Rouge.
Kaku, bravo.
Romelu et Juliette, Madame Sarfati, parce que c'est Eli Kaku, et Shaquille O'Neal pour le physique. Voilà. Bon, attention, vous êtes prêts?
C'est la dernière, parce que là, c'est la dernière.
Passé le temps.
Non, attention. Eric, 3 points, et Yacine et moi, 3 points.
On va jusqu'à demain matin.
Vous êtes prêts?
C'est celle de la victoire.
Le plus pour le plus, le jerk, la roulette, le kebab.
Hazard, ah ouais, Thierry Hazard, merde. Fais chier.
C'est fini.
C'est toi, Gilbert, qui a mis tous les points.
Dis-moi, yes. Daniel, tu supportes que l'autre il gagne tout le temps, là, c'est fait pour lui, il y a une embrouille là.
Il y a bien longtemps qu'on a arrêté de jouer.
Je suis d'accord avec toi, là, il y a une embrouille.
Salut les gars, salut Eric, salut Willy.
Il est gentil,
salut Julien.
Yacine,
merci, à bientôt. On se rappelle.
Merci à vous.
Salut Yacine. Dans quelques instants, le journal de midi, bien sûr, et l'after qui revient demain soir à 22h. Bonne nuit à tous.
RMC, l'after foot.